Bonjour à tous et à toutes. J'ai un petit problème avec mon PowerPoint que j'ai dû le refaire. C'est pour cela que je me suis mis au fond de la salle. C'est les affres de l'informatique qui m'a joué un tour. Mais là, je pense que c'est le bon. Aujourd'hui, le thème qui m'est attribué, c'est une vie de vainqueur. Et le texte, c'est ce que nous venons d'entendre, Maria nous l'a lu, Jean 16, verset 33. Ce thème nous fait interroger sur comment est-ce que la victoire de Christ est une réalité dans nos vies, tous les jours, même si on ne le voit pas ou on ne le sent pas. Même si parfois on a des épreuves et des difficultés, c'est presque quelque chose de paradoxal. En lui, nous avons la paix et la victoire, et pourtant nous avons des luttes, parfois nous avons même des défaites. Et Jésus lui-même, il admet cette paradoxe, cette contradiction apparente entre tribulation et paix en lui. Nous allons donc essayer de comprendre ces choses. Donc, je relis le texte. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir. Il y a quelques pixels, c'est pour ça que je ne vois pas. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu la mort et le péché sur la croix. Cela a été une évidence, le péché et la mort a été défaite une fois pour toutes sur la croix. Mais quel est donc l'impact, quel est l'effet de cette victoire dans nos afflictions? Quel est l'effet de cette victoire face au péché, la mort et la maladie? Et comment cela se comprend-il dans nos épreuves? Toutes ces questions sont tout à fait pertinentes et importantes. Je vous les donne comme ça tout au début de mon message et je ne vais pas les énumérer, je ne vais pas dire tel verset correspond à telle question, mais j'espère que je vous ai donné à la fin des pensées, des idées qui vous permettent de trouver des réponses à ces questions-là. Comment résoudre cette paradoxe? Comment est-ce que nous vivons le fait que Christ est vainqueur et que nous pouvons avoir en lui une vie de vainqueur? Je vais commencer avec une histoire qui vient de l'Ancien Testament, qui vient de la vie de Élisée. Le prophète Élisée était un homme qui était pourchassé aussi bien par les ennemis d'Israël que par les rois d'Israël, et il n'avait pas beaucoup d'amis. Et à un moment donné, les Araméens, ils venaient pour se saisir de lui et le traîner devant le roi parce qu'on voulait l'accuser d'espionnage contre les Araméens pour le compte d'Israël. Et là, le roi envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivaient la nuit et cernaient les lieux où ils étaient. Et le matin, le serviteur de l'homme de Dieu, on ne sait pas son nom, avant c'était Géasi, est-ce que c'était nouveau maintenant, on ne sait. Géasi, il était atteint de lèpre, donc sans doute c'était un autre serviteur, un jeune homme. Et quand il voit ces troupes, il prend peur. Il voit tous ces soldats et dit, qu'allons-nous faire? Que va-t-il se passer? Nous sommes deux. Et là, il y a toute une armée qui nous entoure. Et sans doute, il doit être étonné par le fait que Élisée, mais il est complètement tranquille. Il ne bronche pas, il ne s'inquiète pas, il ne se soucie pas du tout de la situation. Et Élisée va simplement lui dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Et là, il va faire quelque chose pour que le jeune homme puisse aussi avoir son cœur rassuré. Il va prier Dieu. Et sa prière, c'est tout simple. Hop. L'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc, c'était une question de regard. Le jeune homme, il avait un regard qui ne voyait que les choses terrestres, ne voyait que ce qui frappait les yeux, ne voyait que ce qui était immédiat. Et il lui fallait, pour qu'il puisse voir les réalités au-delà de la terre, au-delà de ce que frappent les yeux, il fallait un regard qui est transformé. Le regard de la foi et qui constate ensuite avec Élisée qu'effectivement ceux qui sont autour de nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, alors nous n'avons pas à craindre. Une autre qui a ce regard, c'est l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans le deuxième épître aux Corinthiens, verset 18 je crois, il dit ceci: que nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, car nous ne regardons pas les choses visibles, mais les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les choses visibles sont éternelles. Un regard qui sait voir les réalités différemment que toutes les autres. Moi, je pense que ça, c'est un des premiers points qui nous permet d'envisager notre vie différemment. Je rajouterai encore Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er, c'est un de mes préférés. Il nous est dit ceci, oh, c'est une exhortation de la part du Saint-Esprit par cet écrivain qu'on ne sait pas qui c'est. Il nous a dit, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche de bouger et surtout du péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ou la course qui nous est donnée, ayant le regard fixé sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui les mène à la perfection. Ou l'ancienne traduction, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, c'est une question de regard. Et c'est vrai que quand on est dans des difficultés, et Dieu sait qu'on peut en être, et que j'en ai rencontré des gens dans les difficultés, on a souvent la tendance de ne voir que ce qui est dans l'immédiat. C'est naturel, c'est normal. Quand on est dans la souffrance, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on souffre. Quand on est dans la tristesse, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on pleure. Mais si on ne s'enfonce que dans cette réalité-là, surtout quand on croit en Dieu, eh bien, on va passer à côté d'une autre réalité, le fait que ceux qui sont pour nous sont plus grands, plus nombreux que ceux qui sont contre nous, et que finalement, et nous allons le voir tout à l'heure, rien, même la souffrance, même parfois nos défaites, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc finalement, lorsque on est dans ces situations de difficulté, ce que la Bible nous exhorte de faire, c'est de regarder Christ. Regardez parce que la solution ne vient pas de ce que mes yeux voient. La transformation et le changement de perspective ne peuvent venir que par un regard transformé par la grâce de Dieu. Le peuple d'Israël avait été pris encore de convoitise et ils avaient péché et Dieu envoie des serpents. Les serpents, ils vont mordre un tas de gens et le peuple commence à mourir. Si ma mémoire est bonne, c'est 21 000 personnes qui vont mourir de ces serpents. Et le peuple prend peur. Ils vont crier vers l'Éternel. Et Moïse, il va prier et Dieu va dire à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain. Et tu vas attacher ce serpent d'airain sur une perche. Et il dit, quiconque regarde le serpent sera sauvé. Donc, ça peut paraître être absurde. Comment le regard d'un serpent d'airain peut empêcher le venin de faire son effet dans le corps? Ça peut même être considéré comme illogique et stupide. Et c'est comme cela que souvent le regard de la foi est considéré par ceux qui n'y croient point. Mais c'est ça qui transforme et change tout. Et il est dit que quiconque regardait le serpent, qui malheureusement plus tard est devenu une idole, on l'appelait le Néustan, mais chacun qui regardait ce serpent à ce moment-là avait la vie sauve. Je me suis souvent imaginé cette situation et je me suis dit que peut-être qu'il y avait là des gens qui avaient déjà été si atteints par le venin qu'ils n'avaient pas la force même de se soulever la tête pour regarder le serpent. Et je m'imagine qu'il y a certains qui vont le prendre et tourner la tête et dire « Regarde le serpent, je te porte pour que tu puisses le voir et avoir la transformation. » Et ainsi, la puissance de la foi agit dans le corps, dans les vies et les cœurs des gens et ils sont sauvés. Nous avons besoin aussi les uns des autres, parfois, de nous permettre de lever le regard dans la bonne direction. Parce que lorsqu'on est défait, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est chargé, mais on a souvent la tendance de nous mettre dans notre coin et attendre les jours meilleurs. C'est là l'Église qui intervient. C'est là la bénédiction des frères et sœurs dit, écoute, si toi tu n'as pas la force, moi je t'aiderai pour que tu regardes dans la bonne direction. La victoire est en Christ. Elle est permanente. Elle est inaliénable comme droit pour les enfants de Dieu parce qu'il veut, le Seigneur, que nous ayons une vie où nous savons faire face à tous ceux qui peuvent nous tracasser et même le péché. Le jeune homme, il regardait avec des yeux qui ont été ouverts et sa vie a été transformée. Il dit, qu'est-ce que ce petit armée là des Araméens, parce que c'est lui qui est avec nous, il est quand même bien plus costaud. C'est comme cela que le Seigneur veut que nous sentons aussi, parce qu'il ne veut pas que nous soyons de fait. Mais c'est vrai, nous voyons souvent ce que nous n'avons pas et nous oublions de regarder ce que nous avons. Et en Christ, la parole de Dieu nous dit, toutes les promesses de Dieu ont reçu leur oui. En Christ. Et nous avons accès à cela par notre union avec lui. Donc, là, il y a encore une blague de... Voilà. C'était très rapide fait, mon PowerPoint. Il dit, ici, donc, le Seigneur dit, je vous ai dit toutes ces choses. Et toutes ces choses, cela fait référence au chapitre 14 et 15 et 16, jusque-là. Et dans le chapitre 14, il dit, je vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Je suis le chemin, la vérité et la vie, vous le savez. Il commence à parler du Saint-Esprit, un autre consolateur. Moi, je m'en vais, mais c'est avantageux pour vous, parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, le Saint-Esprit ne viendra pas. mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera avec vous en permanence. Le Seigneur, il parle toutes ces choses. Il dit que vous allez avoir une autre quoi ? Consolateur, qui sera avec vous en permanence, qui ne vous quittera pas. Et il vous enseignera de toutes choses. Dans le 15e chapitre, il parle de notre Père comme le vigneron, lui comme la vigne, et que nous sommes attachés à lui, eh bien nous portons du fruit, beaucoup de fruits, et encore plus du fruit. Du nouveau, dans le 16e, il parle de ce Saint-Esprit qui nous aidera et qui nous permettra d'être forts. Nous avons chanté « Ranime le feu en moi ». L'apôtre Paul, il exhorte Timothée, son jeune fils spirituel, « Ranime le don qui est en toi, que tu as depuis que je t'ai imposé les mains. Ranime la flamme de la foi. » Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies lorsque nous sommes fatigués, chargés, c'est de ranimer. Parce que vous savez, il est dit concernant le Seigneur qu'il n'éteindra pas la lumignon qui fume. Il ne brisera pas le roseau cassé. À quoi ça sert un roseau cassé ? Roseau cassé, ça vaut trois fois rien, ça vaut rien. Et parfois, lorsque nous sommes défaits, nous pouvons avoir ce sentiment que je ne suis rien. Je suis plus plat qu'une limace. Mais le Seigneur dit non. Je n'écraserai pas le roseau cassé. Je n'éteindrai pas la lumière qui fume. Je travaillerai, je combattrai jusqu'à ce que je fasse triompher la justice. Quelle justice ? Celle qui nous a acquis à la croix pour nous, en mourant pour nos péchés. C'est cela qui veut faire triompher dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Et il ne se laissera pas, il se ne lassera pas plutôt, avant que cela devienne une réalité. En fait, la vie que nous pouvons avoir en tant que vainqueurs, ce n'est pas notre victoire, ce n'est pas notre force, notre œuvre. C'est son œuvre qui est parfaite et qui veut rendre parfait aussi dans nos vies. Il dit ces choses afin que nous ayons la paix en lui. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas donner et recevoir ou donner pour attendre quelque chose en retour. Il a tout donné pour toi et moi. La parole de Dieu nous dit, mais vous êtes tout pleinement en lui. En Philippiens, chapitre 2. Vous savez tout pleinement en lui. Vous aurez à souffrir dans le monde. Le Seigneur, il ne recule pas devant les réalités de la vie. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a un paradoxe. Souffrance et que Christ, il a vaincu. Cette victoire est une réalité déjà, mais aussi une réalité que nous n'avons pas encore. Et nous vivons dans cette tension, dans le fait que en lui, nous avons été, nous sommes devenus enfant de Dieu. Il a vaincu le péché de notre vie. Il a vaincu la condamnation de la mort de notre vie. Mais ces choses-là ne sont pas encore complètement réalisées. Et cela ne sera fait que lorsqu'il viendra nous chercher. Nous sommes dans cette tension. Et dans cette tension-là, entre le déjà et le pas encore, le Saint-Esprit est en nous, avec nous et pour nous, pour glorifier Christ et nous consoler au jour le jour. Et nous rappeler chaque fois lorsque nous nous trompons du chemin, il dit, là, oral, tu te fourvoyais. Allez, à la croix. Viens à l'ombre de la croix. Viens à l'ombre de la croix. Retourne, regarde du nouveau. Porte ton regard sur celui qui est le victorieux. Celui qui a vaincu et celui qui vaincra à jamais dans ta vie. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde, ici, c'est le mot cosmos, le cosmon. Ça veut dire, c'est tout ce qu'il y a dans la création. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de Christ. Il est au-dessus de tout, il est par-dessus de tout. Et il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de domaine dans la vie où lui ne puisse être Seigneur. C'est cette réalité qu'il veut que nous vivons aussi avec lui et en lui. Même si aujourd'hui nous nous sentons peut-être défaits ou fatigués, chargés, il veut par sa présence transformer cela dans nos vies. Le psaume 46, il dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est dit, nous sommes même sans crainte quand la terre est bouleversée. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la crainte aujourd'hui. Des jeunes gens, je ne sais pas si c'est encore arrivé en France, l'angoisse climatique. Vous savez qu'en Suède, il y a des jeunes filles qui ont moins de 20 ans, ils ont plus peur de changement climatique que de ne pas avoir des amis. Et tout ça, ce sont des réalités qui angoissent les gens, qui ne peuvent voir que ce que frappent les yeux. Et moi, je dis, peu importe, qu'est-ce qui pourra nous angoisser, qui pourra nous faire peur, le Seigneur, il peut nous rassurer par sa parole et par sa présence que même si la terre est bouleversée, ses plans ne peuvent jamais être défaits. Et même si l'homme il est aussi stupide qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, ça ne change rien dans le fait que le Seigneur il nous a promis une nouvelle terre, un nouveau ciel où la justice régnera. Mais vous savez, il y a là une autre pensée qui nous aide à considérer les choses différemment. Le premier, c'était le regard. L'autre, c'est vraiment de s'arrêter à un moment donné et se poser la question, où suis-je? Avec qui est-ce que je marche? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parfois, vous savez, dans cette course effrénée, j'ai l'habitude de dire qu'on court comme des rats empoisonnés, à droite et à gauche, eh bien, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de respirer. On a besoin de se poser et dire où est-ce que je vais? Avec qui et comment et pourquoi? Et là, la parole de Dieu, arrête-toi un peu. Vous savez, les petits, les enfants, parfois ça court à droite et à gauche et on doit les prendre dans les bras et presque les tenir. Faut force maintenant, mon petit, calme-toi. Parce qu'on sait que s'ils ne se calment pas, ils vont se cogner contre tous les meubles de l'appartement. On a besoin de les calmer. Mais vous savez, ce n'est pas parce que tu es grand maintenant que ton Père Céleste n'a pas besoin de te calmer. Nous avons besoin parfois tous de nous faire calmer par notre Père Céleste et dire « Arrête maintenant! Arrête de t'inquiéter! Je domine sur les nations! Je domine sur les nations! Je domine sur la terre! » Plus les dit, l'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous, le Dieu de Jacob, est pour nous une forteresse. Parfois, il faut contempler ces choses-là. C'est vrai que parfois on se sent pauvre, et pourtant nous sommes les fils et les filles du roi. Le Seigneur veut nous faire découvrir les richesses que nous avons en lui, qui nous permet d'avoir un état d'esprit différent. Et dans tout cela, il nous est dit, il y a cette question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et ça termine dans le verset 39, l'amour de Dieu manifesté en de Christ. Vous savez, Dans le monde, on peut avoir des déceptions amoureuses. Surtout à votre âge. On rencontre quelqu'un, on est un peu épris de la personne, mais ce n'est pas réciproque. Et on a le cœur déchiré. Bon, malheureusement, ça arrive aussi même à des plus vieux. Il y a des déceptions comme cela dans la vie, ça nous fait du mal. Parce que vous savez, l'amour toujours, c'est dans les chansons, mais ce n'est pas toujours une réalité dans le monde. Mais ici, ce n'est pas une chanson. Il nous est dit ceci, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté. l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est scellé une fois par toutes, il a payé le prix à la croix. Rien ne pourra changer sur le fait que Dieu t'aime en tant que son enfant. Quelqu'un a dit, il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime plus. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins. L'amour de Dieu est un constant dans notre vie. Et ça, c'est la troisième chose qui pourra aussi nous rassurer lorsque nous sommes fatigués et chargés. Ou peut-être même qu'on a le cœur déchiré à cause de mauvaises expériences. Nous avons besoin d'amour. On ne peut pas vivre sans amour. C'est impossible. J'ai écrit à quelqu'un que moi je suis un homme béni parce que je suis un homme amoureux tout le temps. Parce que j'ai des gens tout proches de moi, surtout une toute petite de 15 mois, qui remplit mon cœur d'amour. Mais vous savez, cet amour-là, c'est paternel, mais l'amour du Père Céleste à notre égard, ça triomphe sur tous ces amours-là. Et il voudrait te faire sentir cela par la présence de son Saint-Esprit. L'amour de Dieu manifeste. Et regardez bien, est-ce que persécution, la détresse, ou la faim, le dénouement, le danger, est-ce que ça peut me séparer? Non, ça peut faire ressentir, mon ressenti, peut-être amoindri. Mais vous savez, ça je dis mille fois, je dis encore, ce n'est pas ce que tu ressens par rapport à l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que tu ressens par rapport à son attachement à toi ou ton attachement à lui qui est la réalité. C'est subjectif. La réalité objective vient de la parole de Dieu. Elle nous dit vrai. Et lorsqu'on se sent moins aimé, quand on se sent fatigué, il faut retourner à la parole qui dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'on a une victoire écrasante grâce à celui qui nous a aimés. Et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature, et dans cette aucune, il y a Satan aussi, aucune créature, parce qu'il est créé, ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, le regard de foi, de s'arrêter et de contempler, de regarder la vérité objective de la parole qui doit triompher de mes sentiments. Et le quatrième, c'est tout le temps de s'orienter vers notre nord, qui est la croix. Parce que c'est là le symbole de notre union avec Christ. Nous sommes unis à lui, nous sommes de sa famille. Et le Seigneur dit ceci à travers l'apôtre Paul, je n'ai pu que remercier Dieu, car il nous entraîne ou nous traîne toujours dans son cortège de triomphe par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu un parfum de connaissance de Christ. Il nous entraîne toujours. Vous savez, c'est l'image de général triomphant hein, qui entre dans la ville pour avoir les acclamations du peuple et qui amène avec lui les prisonniers de guerre, tous les butins. Et tout le monde l'acclame. Notre général, c'est Christ. Et vous savez, lorsqu'il nous a enrôlés dans son armée, il nous traîne toujours, ou nous entraîne toujours dans son cortège de triomphe. Il se peut que parfois, nous marchons pas de même pas. Mais vous savez, le Seigneur ne laisse pas ses soldats fatigués et chargés en arrière. Il ne laisse pas ses soldats fatigués et chargés en arrière. Il les entraîne aussi toujours dans son cortège de triomphe. C'est une réalité objective. C'est-à-dire, il veut nous aider à nous centrer sur l'essentiel. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. qui nous rappelle de toutes ces choses lorsque nous sommes fatigués, chargés. Et nous fait réaliser que oui, dans ce monde, nous avons des tribulations et des difficultés, mais nous pouvons prendre courage. Parce que si nous n'avons pas encore vu là, à ce moment-là, la victoire, elle ne pourra nous échapper parce que elle est scellée par le sang de Christ à la croix. Donc en lui et par lui, nous avons tous les moyens pour vivre une vie de vainqueur. Que le Seigneur nous élève notre regard vers lui, nous donne à avoir un moment de le contempler, nous donne à réaliser d'où vient la vérité objective de sa parole, et que le Saint-Esprit nous oriente toujours vers notre vrai nord, la croix où tout a été scellé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Seigneur éternel, je te remercie de ce que tu es avec nous aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, si Christ est avec nous, qui pourra être contre nous? Qui pourra être contre nous? Parce que ta parole nous dit que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, merci de faire réaliser ces choses-là dans le cœur de tout un chacun. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui est fatigué, chargé aujourd'hui, qui se dit, mais je suis toujours défait. Je n'arrive pas, je ne m'en sors pas. Seigneur, je te remercie que de ce que tu ne laisses jamais tes enfants à la traîne, mais tu les amèneras encore toujours dans cette cortège de triomphe, cette victoire qui ne pourra t'échapper. Merci Seigneur de connaître les cœurs et les pensées de chacun et de nous permettre d'avoir un regard de la foi, de voir plutôt ce que nous avons en toi que ce que nous n'avons pas dans ce monde. Parce que tu es notre Seigneur, tu es notre source de force et de bénédiction. Seigneur, connais nos cœurs, connais nos pensées, regarde si nous sommes sur le bon chemin, sinon conduis-nous sur le chemin d'éternité, à la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Amen.